Hey ho, let's go, c'est Plumet Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 505e émission, très précisément, en compagnie donc de Mister Roger, bien évidemment.
Bonjour.
Et en représentant cette fois-ci de la...
Maison dont nous tairons le nom.
La maison, carrément, vous les élevez.
Ouais, ouais,
la maison... Ça devient une fédalité.
La...
Ce
ouais, la maison du petit supplément, on l'appelle.
Ça fait corruptible à mort, ne dites pas ça.
Enfin, justement, c'est un peu le scandale, c'est un peu le truc qui les gêne un peu aux entournures à la maison du petit supplément. Mais on n'en parlera pas, parce qu'ils viennent encore de nous offrir un t-shirt aussi aux couleurs de leur boutique.
Donc, on essaie de vous acheter.
Alors, c'est vrai que ça peut faire, vu de l'extérieur, auditrice.
Vu de l'extérieur.
Ouais, ça peut faire, vous savez, légèrement corruptible.
Moi, c'est un peu l'idée.
Hein, mais il faut quand même savoir qu'il faut bien qu'on vive. On est comme vous, hein, chers auditrices, chers auditeurs. On mange, on boit encore plus.
Un t-shirt
d'habitude.
Pour rester propre.
Bah voilà. Quand on est dans le centre-ville, faire la manche et tout.
Il y a de la concurrence.
Ah bah ouais. Donc faut quand même qu'on soit propre. Voilà. Donc nous ne dirons quand même pas le nom de la maison du petit supplément, quand même.
Ouais, voilà. Et c'est monsieur Carpetto qui s'y colle. Et voilà. C'était surtout ça que je voulais dire avant que vous partiez dans votre tirade. Légèrement compromettante, quand même.
Ouais, bah non, mais il faut bien s'expliquer. Il faut bien s'expliquer.
Sont-ils convaincus? J'ai un doute.
Faut bien s'expliquer. Écoutez, on s'écoute un petit Dix. Après 2-3 news, je crois qu'on a de nouveau un mort et c'est pas de notre faute.
I got love.
redoutablement efficace, votre morceau, Mr. Roger.
Mais oui, c'est alors que je bidouillais sur YouTube et que j'écoutais du Nick Waterhouse. J'ai découvert ça aussi il n'y a pas très très longtemps.
C'est le bien. Le pouvoir de l'algorithme.
Ouais, ouais. Puis, vous voyez, ça ressemble un peu à ce style.
C'est vrai, c'est vrai.
Comment vous l'appelleriez, définiriez-vous ce style-là?
J'ai aucune idée. Franchement, moi. Je sais pas. C'est très groovy. Ça, c'est chouette. Il y a beaucoup, beaucoup de groove. Mais qu'est-ce que... De la musique? De la bonne musique?
Ah bah vous mêlez.
De la bonne musique.
Ah bah vous mêlez.
Oh, bon, passons. Passons, j'ai envie de dire. Nous sommes là parce que nous sommes là pour parler BD.
Yep.
News, vous voulez commencer ou je m'y colle?
Alors, allez-y.
De toute façon, je crois qu'on a la même, en fait.
Oui, et puis, comment c'est quand même quelqu'un qui est plus en raccord avec votre domaine de prédilection du moment?
Oui, enfin, que j'ai associé à une période de ma vie, quoi, puisque c'est
fait.
Monsieur François Froideval.
Alors, dites-nous qui c'est. Moi, je connaissais pas trop de nom, mais alors, je ne sais plus trop.
Eh ben, c'est un scénariste, en fait, qui se fait connaître fin des années 80, vers 89, si je me trompe pas, avec une série d'heroic fantasy qui s'appelait Les Chroniques de la Lune Noire. Une très longue série, 22 tomes, et je crois que vous m'avez dit, je crois, Carpetto, que c'était même pas officiellement fini.
Ouais, c'est encore en cours.
Ouais. Et Monsieur Froideval avait été scénariste là-dessus. C'est là que j'avais, avec lui, que j'avais du coup découvert le dessinateur Olivier Ledroit, qu'on voit maintenant de retour avec Requiem, qui était au Hellfest récemment. Et vous dites que il y a une personne de votre connaissance l'a rencontré, c'est ça?
Une certaine Matador, elle l'a vu de loin.
Elle l'a vu de loin. Oui, ah ouais, mais vous me racontez ça tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'il s'était serré la poigne, un selfie.
Elle a réussi à vous vendre ça. Vous étiez ivre ou quoi? Elle l'a vu de loin.
Mais vous savez qu'elle peut mentir des fois.
Non.
Ou enjoliver.
Matador a jamais. Elle enjolive un peu.
Elle enjolive. D'accord. C'est du storytelling.
Moi, elle m'avait dit qu'elle avait lu Ratige Poche, elle ne l'a jamais lu. Elle m'a brisé le cœur.
Mais vous êtes deux arènes à l'avoir lu.
Ah bah oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Par contre, on lui doit aussi plusieurs wargames et jeux de plateau. Ça, c'est aussi votre domaine. Vous connaissez des jeux qu'il a fabriqués? Vous avez joué avec des jeux qu'il a fabriqués?
Alors moi, je le connais surtout par le magazine de jeux de rôle dont il était le cofondateur, qui s'appelait Casus Belli. Jeux de rôle, wargame, etc. Et en fait, ça me renvoie à ma fac et à Donjons et Dragons, parce qu'il est aussi intervenu sur les licences Donjons et Dragons. C'est vraiment le mec que j'associe à l'heroic fantasy, la dark fantasy, même quand on prend les Chroniques de la Lune Noire, c'est plus quand même plus sombre. Au jeu de rôle, quoi, de ma période fac. Donc oui, ça me parle beaucoup.
Et on a toujours pas dit pourquoi on parlait de lui.
Ah bah, si, parce que à cause des Chroniques de la Lune Noire tout à l'heure.
Et parce qu'il est décédé.
Ah oui. Ah, c'est vrai, on n'a même pas dit.
Non.
Oh, en général, vous savez.
Quand on parle de vous.
C'est jamais très bon. Quand on parle de vous sur Plume et Pinceau, ouais. C'est qu'il va vous arriver des merdes.
C'est procès, prison.
En général.
Black Cat, quand même, un petit peu, faut reconnaître.
Un petit peu, dans la profession, on nous connaît un peu comme les chats noirs.
C'est parce que quand ça se passe bien, c'est rarement intéressant.
Il y a des gens qui ne craignent pas le surnaturel. Hein. Monsieur Riffreb, par exemple, a encore grand plaisir à nous rencontrer, malgré les risques qu'il prend.
Hein. Ouais, mais lui, c'est un vieux tanné, lui.
Ouais. Ah, mais il faut être...
Faut être celui.
Il avait scénarisé quelques autres séries, Men's Manga ou Irknos, mais moi je le connais surtout avec les chroniques là de la Lune Noire, l'histoire de ce demi-elfe là qui cherche son destin avec les coups de l'empereur. Il y avait des Templiers, tout. Il y avait des grandes scènes de bataille. Je me souviens de ça et plein de sang qui giclait dans tous les sens. Bah oui, il est parti et
rejoindre son univers fictif.
Exactement. Mais c'est vrai, c'est une info, c'est vrai pour vieux crabe. Hein.
Oui,
connaître.
Non, mais comment dirais-je?
Mais ça m'a touché.
C'est pas parce que, effectivement, vous êtes pas un vieux crabe, vous êtes un mi-vieux crabe. Moi, je suis un vieux crabe.
Oui, c'est
vous n'êtes encore qu'un mi-vieux crabe.
Et jusqu'à quand serai-je votre padawan? Ça commence à être long, cette histoire.
Jusqu'à ma mort. Quand je serai mort, après, ça sera vous, le grand maître.
Et ça sera donc Carpetto, mon padawan.
Voilà.
Que je martyriserai.
Voilà.
Va chercher.
Alors justement, ça tombe bien. Moi, je trouve ça bien l'idée qu'on ait un représentant quand même du petit commerce avec nous, parce que parfois j'ai des questions techniques.
Ah, la question.
Oh, c'est pas voulu, hein. C'est pas vraiment pour vous tendre un piège ni rien, mais je vois que Glénat réimprime en urgence le tome 2 de Berserk. Après une erreur de traitement d'image, édition Prestige du tome 2 de Berserk publié par Glénat contient une erreur de traitement d'image sur l'une de ses illustrations. Après la gronde des amateurs du manga, la maison d'édition relance une réimpression d'urgence.
Bah alors, déjà, en fait, sur le tome 1, ils avaient sous-estimé le nombre de ventes, donc ils avaient un peu sous-estimé l'impression. Ils ont réimprimé d'urgence. Sur le tome 2, je n'étais pas au courant de cette information, je le découvre. Et donc j'imagine qu'on va avoir des retours du
aussi.
Tome 2.
Ouais. Mais vous suivez pas l'actualité?
Bah, si, pourtant, mais ça.
Oui, j'ai entendu ça. Alors, ils ont prétendu que c'était parce qu'ils avaient utilisé l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi. Ils ont dû retoucher.
Non, c'est parce que je peux pas vous le dire parce que cet article de 2089 caractères est réservé aux abonnés. J'étais sur Livre Hebdo, donc je peux pas vous le dire.
mais c'est de la mi-info, ça, alors.
Mais par contre, moi, je comptais sur le professionnel. Une autre question parallèle à ça, monsieur Carpetto, est-ce que par exemple c'est comme les timbres, les BD qui ont des défauts, est-ce que c'est comme les timbres des BD qui surcotent?
Ah, je vois la question. Question intéressante du petit Roger
Fringant de Carpentras. Hein, est-ce que, par exemple, je sais que chez les philatélistes, une Marianne à l'envers ou avec une plume dans les fesses, pan. Ça vaut un carton parce qu'il y a une petite merde qui a fait qu'on a l'impression qu'elle a une plume dans les fesses. Bref, les timbres qui ont un défaut ont plus de valeur. Mmh. Est-ce que c'est le cas aussi pour les bandes dessinées ?
Alors, pour les BD, en fait, les éditions originales ont plus de valeur. Mmh. Et généralement, les éditions originales, c'est celles qui ont un pet. C'est-à-dire que c'est là où il y a un problème d'impression, il y a un petit défaut. Donc oui, elles ont un petit peu plus de valeur, mais pas du fait de ce défaut, du fait que c'est l'édition originale.
C'est assez curieux d'ailleurs le concept de la première édition, que ça fascine autant les collectionneurs. J'ai jamais très bien compris.
Alors, pour tout dire, moi non plus. Et moi, c'est un vrai questionnement actuel sur le prix de la BD d'occasion. Ça me questionne beaucoup de qu'on puisse en fait revendre une œuvre beaucoup plus chère que le prix à laquelle on l'a achetée. Sachant que c'est pas un tableau, reste une bande dessinée qui a été imprimée en plusieurs exemplaires et qu'on fasse ça sur le dos de l'auteur finalement parce qu'on revend son œuvre complètement hors de prix.
Mais par contre, vous savez, c'est aussi un effet, c'est une bulle dans la mesure où certaines BD surcotent alors que pas vraiment de raison d'être. Mais par exemple, pour les vieux Astérix, si vous prenez un vieux Astérix dans son jus... Les couleurs sont nettement plus pétantes qu'une réédition même des années 70 par exemple.
Et ils sont en train de faire ça sur Torgal notamment. Ils avaient réimprimé là il y a peu de temps Torgal avec les couleurs originales. Effectivement, ça pète. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les deux éditions pour laisser le choix aux personnes d'avoir les couleurs de l'époque ou les nouvelles couleurs qui sont beaucoup plus pastel.
Ok. Donc, chers auditrices, auditeurs, fans de Berserk, vous pouvez retourner d'urgence à Tibulle qui va devoir se démerder pour Tibulle, la maison dont nous tirons le nom.
J'ai une question pour vous, Roger. Oui, qui est l'auteur déjà de cette série
Alors.
La question piège.
Question du petit Erwan l'Irlandais de Bourg-l'Évêque.
Mais c'est parce que c'est dur à dire. Ça doit être Kentaro Miura.
J'en ai aucune idée, mais je vous crois.
Merci.
Mais
monsieur,
c'est une série assez mythique. C'est, effectivement, il y a une grosse une base fan. Il est mort il y a pas longtemps, lui, non plus.
Il est mort il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Wow. 2 ans, il est mort.
Ouais, tu vois.
Un homme qui avait dit que son plus grand, ce dont il avait peur, c'était de mourir avant de finir son œuvre, et il est mort avant de finir son œuvre.
Ah bah, il n'aurait pas dû en parler.
Bah oui.
Les règles de base.
Est-ce que j'avais parlé, on pourra terminer là-dessus cette semaine, mais du prix Gottlieb de la bande dessinée, j'ai pas l'impression que j'en ai parlé.
Si, je pense.
Non,
au moins une fois.
C'est qui ?
Ça date.
Rappelez.
C'est honteux parce que c'est un article qui remonte au 13 avril. Là,
mais si vous me dites le nom, peut-être que je vous confirme qu'on l'a déjà chroniqué.
Non, parce que.
Je vous dis, c'est mi-info à creuser.
Voilà,
oui, mais c'est de la mi-info.
Avant, j'avais du papier. mais comment dirais-je, mais c'est François Bouc, naturellement, qui reçoit le prix Gottlieb 2025 pour Le Petit Pape 3,14, arrondi des angles, aux éditions Fluide Glacial, voili, voilo.
Il me semble qu'on en avait parlé, mais bon.
Ouais, c'est un prix, avec autour du président du jury, Mocédem, qui était le lauréat 2024, Charles Vanhoenacker parmi les membres du jury, Antoine Decaune, Emmanuel Devos, Richard Gottener, Clara Dupont-Mono, je connais pas, Catherine Maurice et Zepp. et Ariane Gottlieb, qui est donc la fille de Marcel Gottlieb et qui est à l'origine de ce prix sympa, puisqu'il il met un peu en avant la BD d'humour qui, comme le disait Monsieur Fifrelin l'autre jour lors de son premier passage, est loin d'être le secteur qui se porte le mieux de la bande dessinée, quand même.
Mais je savais tout ça, vous en avez déjà parlé il y a au moins trois
semaines. Eh ben, je le redirai la semaine prochaine et puis
c'est tout. Bulle temporelle. Est-ce que vous connaissez Kudret Gunes, les gars?
Pas du tout.
Ah, c'est une autrice pourtant franco-turque qui est actuellement détenue en Turquie. Elle était revenue au pays. Elle s'est fait arrêter parce qu'elle fait de la BD. Et elle a fait notamment de la BD qui parle d'une jeune fille kurde réduite en esclavage par Daesh qui s'était évadée et qui va rejoindre les troupes, les unités de protection du peuple, tu vois, qui vont combattre Daesh. Donc ça parle un peu kurde, ça parle un peu PKK, du coup, alors qu'elle allait rendre visite à sa famille, crac, hop, arrêté. Voilà, c'est à savoir. Il y a des pétitions qui circulent. Elle est détenue. Elle va passer le 8 juillet devant en procès. Pour apologie du PKK, bien évidemment.
Eh ben, c'est toujours pas en Turquie que j'irai passer les vacances.
Ouais, c'est clair.
Que des bonnes news. Interlude musical, les gars.
Yes.
Et puis on commencera nos chroniques. La tradition veut que c'est la maison qui commence.
Yeah.
Temiz Kitin. Il est terrible ce morceau, Mitsubishi, j'adore. J'adore, ça me donne de la pêche. Alors messieurs.
Alors je crois que c'est un monsieur.
La tradition veut que, et c'est pas parce que on a eu un t-shirt.
Ouais.
Non mais il est, vous êtes touchant, vous avez votre petit cahier, tout.
Il a tout revisé.
Ouais, pendant le morceau, il hochait un peu de la tête, mais il relisait ses petites notes.
Il relisait ses notes, assez sérieux, assez sérieux. Alors.
Ah, une maison sérieuse.
Voilà.
Je suis venu vous parler de On est en finale, une BD de Camille Blandin qui est sortie il y a une petite année de ça. Camille Blandin, c'est un tout jeune auteur qui est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Strip Club, qui fait des petits strips humoristiques plutôt très drôles. Et là, il a sorti cette BD. Alors, dedans, ça parle de l'équipe de basket de Fondeloup, les Rougemous, et qui est très certainement la plus nulle équipe du département. Et ils se sont retrouvés en finale départementale, mais personne ne sait trop comment. A priori, quand même, beaucoup d'abandon des autres équipes avant même que le match se joue. Et leur pire problème, c'est qu'actuellement, ils sont en finale contre leur ennemi juré, l'équipe de Guindoul-Pégueux, et qui est la meilleure équipe du département. Donc il va falloir s'en sortir. A priori, la première mi-temps se passe pas mal, hormis un paquet de chocs à pic, un entraîneur complètement à la rue et une tentative de match de foot pour saboter le match. Ça semble aller, mais à un moment, Bernard, le tabanard, lance un « ta mère la tartiflette » à Dylan, l'ailier de l'équipe de Fondeloup. Et là, tout part en vrille. Donc, ça va être une bataille d'insultes, des frites pas fraîches, des chevilles fragiles. C'est une BD assez incroyable, extrêmement drôle, complètement absurde, mais qui fonctionne très très bien.
Ouais, le pitch est bon. On dirait du Bouzard, enfin, dans le délire ruralo.
C'est du
absurde.
Bouzard avec un dessin ultra minimaliste. Mais effectivement, les personnages ressemblent tous plus ou moins à Floppy, le chien de Bouzard. Ils sont tous très bêtes, mais hyper attachants.
Et vous avez, je vois dans l'œil de Roger que vous l'avez accroché là.
Mais oui,
vous le tenez.
Comment dirais-je, c'est plus macabre et avec en plus une couverture géniale puisque elle fait référence à un ballon de basket parce qu'elle est en peau de ballon de basket.
Et ouais, complètement.
Oui, puis elle est orange avec les rainures
avec
en noir,
les stries. Ouais,
les stries, ouais, marrant.
Ils ont tué 500 ballons de basket pour pouvoir assurer la reliure de cet ouvrage.
Faut réguler, Roger, faut réguler. Et ça s'appelle comment ce petit bijou-là ?
On est en finale, de Camille Blandin, c'est édité chez Misma, une maison toulousaine, pardon, qui est une petite maison d'édition, mais c'est toujours très chouette, parce qu'ils font plutôt de la BD humoristique la plupart du temps, pas tout le temps, hein, mais la plupart du temps. Le dessin est assez étonnant, des couleurs hyper vives et un dessin très enfantin.
Ouais, un dessin enfantin et on sent qu'il avait le droit, il avait un prime access sur le pot de peinture.
Ah ouais, il a pu en mettre.
Ouais, tous les fonds sont hyper colorés. Alors il se fait pas chier, il n'y a pas de décor en fait.
Ah non, zéro décor.
Il n'y a pas de décor. Par contre, il a le droit à la couleur, quoi. Il a le droit à la couleur et ils s'en privent pas.
Et c'est très clairement pas pour les fans de basket, hein. Il y a aucune règle respectée.
C'est peut-être pas non plus pour les fans du dessin léché non plus.
Non, effectivement. On est sur du dessin minimaliste.
Ouais, mais ça a l'air chouette.
Ouais, c'est tout récent ou ça date un petit peu déjà ?
C'est sorti en septembre 2024 ou c'est la deuxième édition, je crois. Septembre 2024 dans ces eaux-là.
Donc il vient d'être réédité carrément.
Non, là je l'ai sorti parce que je cherchais de la BD humoristique qui n'avait pas été présentée. Et comme vous accaparez un peu toutes les BD humoristiques, il a fallu farfouiller dans la boutique.
Eh ben bon choix, on est en finale chez Misma de Camille Blandin. J'ai noté en tout cas.
Impeccable, j'enchaîne ?
Allez-y.
Ah ok. Oui, bon, on va dire qu'on copine un peu peut-être, mais Laurent Lefeu vient d'essayer de sortir le quatrième épisode de sa série Fox Boy. Enfin, quatrième, il y en a eu deux chez Delcourt et maintenant on est la quatrième chez Comics Initiative. Monsieur Lefeu a repris le contrôle de son homme renard.
Tout à fait.
Et du coup, ce qui lui permet de se lancer dans des, à fond dans ce projet. De toute façon, Monsieur Laurent Lefeuve, on le connaît. Quand il se lance dans un nouvel épisode, un nouveau tome, c'est vraiment il s'y lance, quoi. Il s'y investit. On l'avait rencontré à Quai des Bulles, le dernier Quai des Bulles. Il était en plein dedans et c'était cogitation sur cogitation. C'est un cérébral, ce monsieur.
Oui.
Et en fait, c'est un album assez complexe. C'est pas un cadeau à résumer, ce genre d'album, tu vois. Bon, alors, si on s'en tient juste aux faits, c'est
ouais,
assez
rappeler qui est Foxboy, des fois qu'il y a des gens qui ne sauraient pas.
Alors voilà, Foxboy, c'est Paul Salcedo. Paul Salcedo, on l'a rencontré, je crois qu'il, dans le, vraiment au tout début, il devait être en terminale ou quelque chose comme ça. Il était encore lycéen. Il a hérité de super pouvoirs, il est devenu le Foxboy, quoi, le garçon renard.
Un super héros breton qui sent le beurre.
Voilà, tout se passe à Rennes, c'est ça le truc, tout se passe à Rennes. Donc on reconnaît notre ville, etc. Certains méchants ressemblent à des personnes plus ou moins connues sur Rennes, hein, quand ils prennent des tatanes. C'est vraiment un ancrage très, très local, voilà. Et donc là, on est... en fait, là, on retrouve ce personnage, mais il est devenu adulte. On est en 2025, c'est vraiment quelque chose... On est très contemporain. Ça se passe 5 ans après la trilogie précédente qui formait une espèce de tout. Là, on sent bien qu'on ouvre un nouveau chapitre. Donc, le personnage, Paul Salcedo, en gros, si je fais juste dans les faits, il va aller à l'inauguration d'une exposition au musée de Bretagne, faite par un de ces riches qui, de temps en temps, permettent au peuple d'aller voir leur collection. Mm-hmm. Tu vois, ils partagent.
Ça arrive jamais à Rennes.
Non, ça arrive jamais à Rennes. Je sais pas où il a été chercher cette idée.
C'est vraiment l'argent attire l'argent. Il faut payer pour regarder sa collection, et comme ça, lui, sa collection, il la loue.
C'est surtout un combat d'ego avec les autres qu'on a aussi, qui a la plus grosse. Il y a un côté qui a la plus grosse. Voilà. Et puis notre local,
le mieux.
Voilà. Nous aussi, localement, on a un qui a une grosse. Voilà. Mmh. Voilà. Bref, il va aller à cette expo.
Parce qu'il y a sa mémé.
Non, c'est parce qu'il y a sa mémé qui est conteuse, qui va un peu ouvrir la soirée, qui va lancer donc l'accès au musée de Bretagne et à l'accès à cette exposition. C'est la première, si tu veux. Elle est là parce que en fait la pièce maîtresse, c'est une espèce de gros monolithe tricéphale qui a été retrouvé dans la vallée du Guerlédan. Voilà, vraiment le Lefebvre nous joue. Il y a un côté très folklorique breton dans
mais il aime bien le Guerlédan, c'est pas la première fois que Foxboy
il aime bien Guerlédan, effectivement. Donc sur les faits, c'est ça. Donc mais ce qui donne toute l'intérêt de cet album, toute la complexité, c'est qu'en fait notre personnage, il est en pleine interrogation. Officiellement, il est plus super-héros. D'accord, il a renoncé un peu à ça, il veut une vie normale. Il est maintenant journaliste dessinateur, un peu à la Laurent Lefebvre, tu vois. Il a fait un album qui s'appelle Refuge, voyez.
Il y a beaucoup
de Laurent Lefebvre quand on le connaît un peu aussi dans cet album. Il y a vraiment des choses et des personnels qui sont cachés là-dedans et qui sont utilisés dans la trame qu'il est en train de faire, qui est assez complexe en fait. C'est un monsieur compliqué aussi, Laurent Lefebvre, faut bien le reconnaître.
Même sur la couve, on le reconnaît un peu, 2-3 quarts là, on croirait le voir.
Ouais. Et parce que ce personnage s'interroge. En fait, il redécouvre des choses de son passé, en allant chez sa mémé un peu par accident, et c'est là qu'il apprend l'exposition, etc., et qu'il va y aller. Sur sa place actuelle aussi, à la fois en tant que dessinateur, journaliste, il y a une scène... on en avait parlé beaucoup avec Laurent Lefebvre. C'est une scène où il montre son personnage en train de faire une intervention dans un lycée autour de la caricature. Et là aussi, vraiment, il y a une réflexion sur le dessin qui est enclenché dans cette scène, qui est hyper intéressante. Parce qu'en fait, Laurent Lefebvre, dans son album, tu vois aussi qu'il réfléchit à ce que c'est que la bande dessinée. Là, il joue vraiment, il a réussi à choper un truc un peu à la Lytton Lemo, c'est-à-dire il y a le monde de la réalité, le monde de la fiction. Et la réalité sont vraiment hyper enchevêtrées, aussi bien dans l'album, puisque en fait, le Paul Salcedo, il y a plein de scènes où tu vas trouver deux personnages. C'est ceux qui sont assis à côté, effectivement, du héros sur cette couverture. Tu vois, on voit une scène de bus ou de métro. Et donc, tu vois le Paul Salcedo et deux petits personnages qui ressemblent fortement à Calvin et Hobbes. Tu vois toujours cette connaissance de la bande dessinée qu'il injecte, qu'il utilise. Il reprend des déplacements, des fois très vraiment sortis du comics. Tu sais, tu sens le personnage avec les bulles, etc. Il y a ses connaissances de la bande dessinée, et il joue beaucoup sur aussi donc la fiction et la réalité, parce que ça, c'est ça représente les deux petites entités en lui, le renard, le super héros, et puis le petit garçon, quoi. Et là, en fait, ils sont en train de, c'est comme une évasion, c'est assez bizarre. Ils passent à travers les cases, tu sais, comme dans Imbattable. Vous vous souvenez de cette bande dessinée où le personnage,
oui, c'est excellent,
voilà, transite à travers les cases. Il fait ça, et même par moments, le petit fox, le petit renard qui ressemble beaucoup à Hobbes, il nous regarde. En fait, à un moment, il voit un lecteur, quoi. Ils vont à l'extérieur. Vraiment, ils jouent avec les dimensions. Ils brisent le. Tu pars dans un truc, quelque chose de très onérique par moment. Il y a même l'objet a été pensé. Il m'impressionne. À un moment, il y a donc nos deux petits personnages qui sont en train de causer et ils sont vraiment dans la pliure et il y a une bulle et tu vois, et t'arrives pas à lire en fait. Et en suivant le cheminement qu'il a tracé, tu regardes, tu sautes, un peu plus loin, tu retrouves nos personnages et il y en a un qui dit à l'autre, tu peux répéter, on était dans une pliure, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il joue même avec la forme de l'objet. Je trouve qu'il y a une intelligence dans ce bouquin. Alors, il est intéressant parce qu'on sent qu'il ouvre plein de pistes, cette exposition, l'espèce de gros richou là qu'il a lancé, l'interrogation sur la réflexion de super-héros. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Voilà, tout se met en place et nouvel arc, j'ai envie de te dire. Et c'est hyper réussi, quoi. Il est très impressionnant. C'est très difficile à raconter parce que c'est un tel enchevêtrement d'idées et d'histoires.
Et presque de couches. Dommage de spolier l'affaire.
Ah oui, mais c'est vraiment un tome de mise en place. Il ouvre plein de portes et maintenant on va voir où il va. Alors tiens, ce que je peux rajouter, le petit supplément.
Tu l'as eu, toi.
Monsieur Lefebvre était à la brasserie Skoumen. On a le droit de dire qu'il fait de la limonade, très bonne limonade. Des limonades sympas, pchit orange, pchit citron, tu vois, vraiment super. Plein de bonnes limonades. Il a fait une dédicace parce qu'il fonctionne un peu au crowdfunding et à ce genre de choses. Des gens préachètent l'album.
Et ça a super bien marché.
Et ça a super bien marché.
Je suis sur Instagram et ouais, c'était un bonheur de voir effectivement comment...
Les paliers étaient franchis.
Il
y a plein de goodies qui sont faits, ce qui donne encore vie en plus à ces personnages. Parce que tu retrouves tout. Hein, tu as même les éditions Roar, tu vois, qui sont réévoquées. Tu as plein d'allusions bande dessinée. C'est vraiment très chouette. Et donc, il est allé ouvrir Human pour remettre un peu les colis, enfin les, je sais pas, je vais pas dire les lots et les goodies, la BD et les goodies aux gens qui avaient investi, leurs noms sont d'ailleurs donnés à l'intérieur de l'album. C'est une vraie rockstar, hein. Il a des fans. C'est assez rigolo parce que vraiment il y a des gens qui croient en lui, qui s'intéressent à lui, etc. C'est comme pour un groupe de musique, quoi. C'est assez chouette. Mais avec les réseaux sociaux et puis c'est vrai qu'il est assez avenant, Laurent. Il est sympa, il parle facilement.
Même s'il est peu loquace.
Oh, quand il s'y met. j'avais pas compris l'ironie du début, j'allais te dire, mais t'es sûr qu'on parle du même? Non, il est super intéressant, il est très très riche. Bref, tu pouvais donc boire des Skoumen, moi j'ai été le voir et j'ai pu bavarder un petit peu avec lui.
Mais oui, parce qu'il n'y a pas que les t-shirts dans la vie.
Non, il y a la bière.
Il y a de la bière.
Non, il y a la limonade.
Vous aviez l'occasion exceptionnellement de boire quelque chose de qualité, ça vous change l'eau du robinet de la ville.
C'est clair. Et juste à côté de lui, il y avait un monsieur très sympa qui tient la Zepto Brasserie Rennaise Fen. Vous connaissez ça ?
Non.
Zepto Brasserie, vous voyez ce que c'est, une micro-brasserie ? La Zepto, c'est encore plus petit. Oh. C'est vraiment des tirages très, très...
C'est dans sa cuisine, quoi.
Ouais, quasiment. T'sais, un quart de pneu, un quart de pomme, un peu de houblon, titouille, titouille. Enfin, ce monsieur était là, donc de la brasserie Fen. Non, un monsieur très sympa, hein, Jérémy Josselin. Et parce que il y a des bières qui vont se faire autour de Foxboy maintenant. Il y en a déjà une première qui est sortie. Attends, j'ai l'étiquette là, elle est très jolie, c'est inspiré de la bande dessinée La Bugnose, une espèce de créature qui serait censée être dans le lac du Gévaud, de Guerlédan. Ah, c'est l'étiquette de la bière. Okay. Regarde le beau dessin de Laurent Lefebvre. Bref, il y a déjà une première bière qui est sortie et il y en a une deuxième qui sera vraiment sur Foxboy plus précisément, qui se prépare. Et faut aller sur le site internet, vous trouverez
On dirait une goule. Ouais, on dirait, vous savez, les Morlocks.
Ouais, c'est super, hein.
La représentation de la
créature du marais. Je vous mettrai le lien sur le blog. Vous pourrez commander de la bière.
Est-ce que elle porte un titre, cette BD?
C'est Foxboy, l'épisode 4, Fox et Paul, chez Comics Initiative, Laurent Lefebvre. Il sera d'ailleurs, je crois, en dédicace le 4 ou 5 juillet chez Critique.
Voilà. Trop bien.
Ouais. Okay. Ouais, c'est sympa.
Et pour revenir juste un tout petit peu sur les éditions originales, une fois Laurent Lefebvre, il me disait, et c'est, je trouve, intéressant sur l'évolution de la BD, lui, il est un peu toujours insatisfait sur ses travaux, sur ses BD. Et entre chaque nouvelle édition, vous pouvez voir énormément de différences dans les BD. Il redessine plein de choses, il fait évoluer sa BD entre chaque nouvelle édition, ce qu'il considère que c'est une œuvre qui est mouvante et qui va travailler continuellement pour l'améliorer.
Alors, si j'étais méchant, je rappellerais que c'est aussi un type qui, par moment, a 6 doigts. Je ne sais pas si vous voyez l'allusion à une certaine couverture.
C'est la couverture où il avait 6 doigts.
C'est un peu dur. Ça, c'est un peu dur de faire ça.
Ouais, ça, c'est vraiment une vipère. Je suis sûr que l'autre, il l'a arrosé avec de la bière et tout. Il est parti avec des autocollants, machin.
Mais t'as pas offert de t-shirt, c'est ça?
Non. Ouais. Mais voilà, Lefebvre... il n'y a pas le t-shirt Foxboy, quoi.
Monsieur Lefebvre est très gentil parce que donc on a discuté. Et puis, il avait cet album justement là. Je crois qu'il doit être sorti chez Comics Initiative aussi. Tu pourrais aussi en profiter pour acheter, tu vois, d'autres trucs. Et il y avait, enfin, il parlait avec un de ses fans. Et puis donc il m'a présenté. Et puis il m'a dit, ah, faut que je te raconte une anecdote affreuse avec avec Plume et Pinceau. Puis c'est là où il a révélé que, tu vois, il assume aussi. Oui. Il sait, il a merdé, il a été pris.
Il a du mal, voilà. Il a du mal à cacher l'affaire parce que vous la rappelez à chaque fois que vous parlez de lui. Donc.
Oh là là, interlude musical.
Yes.
Alors, programmation, Totoro, Home Alone, ça, c'est vous, Monsieur Carpetto.
Tout à fait.
Ah non, ça surprend,
oui,
ça finit comme ça.
Ouais, il semblait
efficace,
que...
efficace, ça tape dur.
Alors, qu'est-ce que je veux dire,
c'est les Rennais, vous disiez, oui. Totoro. Totoro.
En arpentant les longs couloirs de la librairie dont nous tairons le nom, j'ai découvert, tiens, la fin du monde par Stanislas chez l'association. Quand j'ai montré ça...
Stanislas.
Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Oh, Stanislas, ça fait longtemps.
Mais ouais.
Et effectivement, si on regarde à la fin de ce petit ouvrage, les dernières parutions de Monsieur Stanislas, la plus récente remonte à 2008, objet du XXe siècle, dans la collection Mimolette à l'association. Maintenant, peut-être que Pierre, vous connaissez Monsieur Carpetto, d'autres... Alors c'est vrai que je vous pose une colle, parce que c'est pas vraiment votre cam, du coup, on est avec Monsieur Stanislas, dans... à un moment donné, il y a eu un espèce d'âge d'or de Renews Linclair, avec Chaland, Flock, plein d'auteurs. Et donc, Stanislas, par exemple, Evermelen, comment il s'appelle l'autre Hollandais, là que j'ai plus ma tête.
Swart.
Ouais, voilà. Bref, il y a eu tout un tas de représentants de la ligne claire qui ont œuvré pour mettre en avant tout un style. Et c'est vrai que ce style-là, c'est un peu retrouvé noyé, a perdu. Certains de ses représentants sont morts, dont le représentant le plus emblématique, Monsieur Chaland. Par contre, il reste encore de cette époque-là certains auteurs, notamment Stanislas. Alors, dans la fin du monde, en plus de ça, Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était un peu... Les Américains venaient de bombarder l'Iran. J'ai dit, oh, je crois qu'effectivement, peut-être que c'est un dernier cadeau. Vous voyez, les dernières images avant qu'on y passe tous. Et donc, alors je sais pas pourquoi. Alors, j'ai montré ça à M. Fifrelin, votre vénéré supérieur. Et au début, il pensait que c'était même une réédition. Puis il a regardé, il me dit, mais non, c'est pas une réédition, c'est du nouveau matériel. Alors c'est vrai que j'ai pas lu, moi, le nombre d'ouvrages
qui sont... Moi, je le connais avec la série Victor Levallois.
Voilà. Et comme tout le monde, j'allais dire, effectivement...
Des trucs en Indochine et tout.
Ouais. Sa série qu'il faisait manger, je pense, plus.
Oui, il y a eu plusieurs tomes.
Et là, donc, du coup, on a une succession de petites histoires très surréalistes, avec des petites histoires mignonnes, petites histoires d'amour, qui commencent bien, de personnages dans un univers foutraque. Ou un petit couple, c'est très poétique, un petit couple s'installe dans sa maison en mettant des cubes, etc. C'est très, très mignon. Et on retrouve au milieu de cet ouvrage une série de portfolios. Alors, ce que je vais sans doute faire, c'est que je vais scanner les pages et après je vais essayer de refourguer le bouquin à la librairie dont nous tairons le nom en leur disant oui, il y a des fautes, ou il est tout chiffé, ou il y a une tache de café, je ne sais pas.
Vous êtes diabolique. Ils s'en douteront pas en plus.
Faut pas dire ses plans à voix haute.
Et donc, du coup, on a par exemple L'an 2000 par Stanislas, toute une série, un petit portfolio à l'intérieur.
Ça rend hommage à Tintin, non, un petit peu?
Oui, on est carrément, on est dans l'univers de Tintin. D'ailleurs, c'est un hommage, il le dit, hein, d'ailleurs, dès la première page. Monsieur Stanislas, merci à Alain Saint-Augan, Georges Rémy et Jean-Christophe Menu. Donc voilà, Jean-Christophe Menu pour l'association, Alain Saint-Augan pour le petit pingouin, et Jean-Christophe Menu, et Georges Rémy pour Hergé, naturellement. Et effectivement, on est là dans un hommage, d'ailleurs on le voit dans la dernière histoire, dernière petite histoire bizarre, dans la forme d'un robot. Et on retrouve les petits personnages de monsieur Alain Saint-Augan. Ça s'appelle La fin du monde par Stanislas, c'est paru à l'association. Donc, c'est très bien pour ceux qui, comme moi, étaient déjà nés.
J'aime bien ce style graphique. Bon, ça reste une référence, la ligne claire. Ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, qui effectivement vient un peu du passé, pareil, mais que j'aime encore beaucoup. Il y a pas longtemps, dans le genre ligne claire, j'ai relu des Black et Mortimer, juste comme ça. Je me suis aperçu de deux choses. Qu'est-ce que c'est bavard, putain.
Ah ouais.
Oh la vache. J'arrive pas à lire un tome en entier le soir.
Ah, et puis c'est Bulle où il raconte ce qui se passe dans le dessin. Ouais. C'est impossible.
Et tu le revois dans le dessin et je vais faire ça, dit-il à voix haute.
Et vous me dites ça, il est en train de me dire ça alors que lors d'un voyage d'études à Londres, monsieur dans la chambre commune que nous partagions lisait du Murakami.
Ah pourquoi? Ouais. C'est vrai. Alors, je me suis aperçu ça et je me suis aperçu qu'il y en a un que j'ai jamais lu. L'affaire du collier, c'est le seul que j'ai pas et je vois absolument plus du tout de ce que c'est l'histoire.
Eh ben c'est le meilleur.
C'est sur un collier, je crois.
Je parle dans les anciens de Jacobs, hein, sûr, vraiment, parce que la série continue. La série continue. Très très bien. C'est
le moment de Monsieur Carpetto. Ah,
oui. Pierre, mais oui, enchaînons.
Carpetto,
voilà.
Pierre, maintenant, très bien.
Toi, petit, parlez maintenant.
C'est parti. Et je crois que nous allons dans une petite sélection Télérama, non?
Oui, effectivement, c'est parce que...
Tu vois, il nous a endormi avec son histoire de basketteur, là.
Ouais, ça, c'est bien con, hein, pour vous gober, vous voyez. Il a pâté.
Vous n'avez rien vu venir. Je vous présente La ville de Nicolas Prel chez Atrabile. Nicolas Prel, c'est un auteur de 76. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a été sélectionné à Angoulême en 2020 pour Le Jardin de Babylone. Alors, Nicolas Prel, on le reconnaît parce que son dessin déjà, et qu'il n'a toujours fait que des BD muettes. BD sans texte, sans aucune bulle, sans phylactère. Dans La ville... on va suivre la ville, justement, qui est une gigantesque cité dans un futur proche, qui est au bord de l'eau. D'ailleurs, beaucoup des maisons sont même sur l'eau. Et un soir, dans cette cité, un corps sans vie est retrouvé dans l'eau, aux abords d'une boîte de nuit. Quand ils sortent le corps, très clairement, on a affaire à un zombie, mais il ne bouge pas, il est inanimé. Sauf que les corps vont se multiplier comme ça jusqu'au moment où un des corps va se réveiller et va commencer à attaquer les gens. Les zombies vont petit à petit être dressés, être parqués dans des endroits de la ville et être utilisés pour les basses besognes des habitants de la ville. Ils sont de plus en plus nombreux, ils commencent à remplir la ville jusqu'au moment où une révolte de zombies va éclater.
Bah oui, c'était clair, ça allait mal finir.
Bah oui, ça va mal finir.
Allez tous les brûler.
Ce qui est hyper chouette avec cette histoire, c'est que là, il relie vraiment avec les débuts de Romero, avec les débuts du zombie de Romero, c'est-à-dire que ça devient une critique sociale, ce zombie. Le zombie devient le reflet un peu de notre société et de la façon dont on traite nos migrants et des politiques migratoires qui sont mises en place actuellement. C'est un récit qui est vraiment terrifiant, qui est oppressant. C'est très, très, très efficace. C'est un page-turner. On tourne les pages, on n'arrive pas à s'arrêter dans la lecture. C'est fabuleux, c'est très fort, et il y a quelques petites apartés, quelques flashbacks de la vie de ces zombies et de ce qu'ils vivaient avant de devenir des zombies. Ah. C'est très fort, c'est vraiment extrêmement malin.
Noir et blanc.
Et tout ça sans une parole.
Et tout ça sans une parole, en noir et blanc.
Et dans des cases très carrées. Hein.
Dans des cases très carrées, oui.
Il est bien les contraintes.
Il a un gaufrier en implacable. 4 cases toujours, quasiment toujours, et des visages assez étranges. Alors ça coupe la lecture de certaines personnes, sa façon de dessiner les gens. Moi, je trouve qu'on s'y fait plutôt très vite et que sa critique de la bourgeoisie à travers ces visages-là est hyper efficace. Voilà, ça rend ça d'autant plus fort.
Oh, ça change, là, je vois comment un gaufrier a 3 cases la journée.
Oui, oui,
il y a
effectivement, il n'y a pas toujours 4 cases.
Voir des planches complètes.
Soyez précis.
Oh là là, oh là là. Mais voilà, c'est une lecture très très efficace, c'est très beau. Alors Nicolas Prel, il n'en est pas à sa première BD, je pense qu'il en a même fait énormément. Et dans toutes ses œuvres, il se montre très critique envers notre société. Voilà. Et de
mais
manière plutôt intelligente. Chez Atrabile.
Atrabile, c'est la ville.
Bah, je connais de nom. Et ça fait référence à quoi, Atrabile? Ça veut dire quoi, Atrabile?
C'est pas un terme de médecine?
La question piège.
C'est pas un terme de médecine?
Ouais, je crois qu'effectivement, c'est un mot italien qui est un terme de médecine. On va mélanger les deux, on va dire que c'est ça.
On va dire
non,
que c'est ça.
C'est un petit animal nocturne.
Très chafouin. Très, très chafouin.
D'Australie orientale. Tu vois?
Merci. Il élève ses petits dans une poche.
Du coup, interlude musical en lien avec cette BD, si j'ai bien compris.
Ah oui, et c'est interlude musical aussi en lien avec ce groupe qui se reforme, c'est fabuleux.
Et qui s'appelle ?
Les zombies.
Alors, Woolif ou Woolife, je ne sais pas le prononcer.
Et le morceau, c'est Dirt. Woolif. Le morceau s'appelait Dirt. Je connaissais pas.
Ouais, c'est un groupe mancunien que j'aime beaucoup, qui a splitté après son premier album et qui la revient.
Ah, ils sont revenus de l'espace.
Ouais.
Non, c'est pour faire une transition avec mon album.
Bien joué, bien joué.
Je vous emmène aux frontières de l'infini.
Ah, ouais. Ça tombe bien, d'ailleurs, avec ce dont vous allez nous parler.
Ouais, mais c'est ça. Enchaînement, Roger. T'as vu, on serait bon, hein. Ouais. On a un peu de bouteille quand même. On
ouais, commence à... ouais. Mais
il y a deux, trois trucs qu'on sait faire.
Vous savez quoi? Heureusement qu'on est quand même parfois reconnus. T-shirt par-ci, un briquet par-là, un petit coup de bière, voilà.
À force de fréquenter Floppy, vous avez l'habitude de quémander maintenant. C'est affreux.
Je quémande pas, mais je sais faire les yeux de la mort.
Ouais, je vous emmène aux frontières de l'infini. En fait, je vous emmène aux abords de Neptune. Parce qu'aux abords de Neptune, il y a Ulysse. Ulysse, c'est quoi? C'est une espèce de base. C'est un télescope spatial. Voilà, il s'appelle Ulysse. Il est en orbite autour de Neptune, pardon. Et dedans, il y a une jeune fille qui est vraiment au centre en fait de l'album. L'album tourne autour d'elle. Elle s'appelle Lila. Voilà. Elle est là. C'est la seule humaine qui est à bord de cet énorme télescope. Parce qu'en fait... comment dirais-je? Elle projette son avatar dans les reconstitutions virtuelles que fait cet énorme télescope. En fait, il est en train d'explorer la ceinture de Kuiper, je crois que ça s'appelle comme ça, au-delà de Neptune, quoi. Il est en train d'explorer très très loin, il fait des captations. Il arrive à recréer ça dans une espèce de chambre, les lieux. Et puis elle y va aussi, elle rentre dans cet univers numérique, et puis en fait elle est en train de chercher une terre alternative, vous avez bien compris le truc, parce que si elle est là et si on est en train de chercher une planète, c'est qu'à un moment ça a dû merder à la base.
Il y a un problème sur Terre, quoi.
Ouais. Donc ça, tu vas découvrir quelle est la nature du problème, etc. Et donc en fait tu suis, c'est le quotidien de cette nana et surtout son état psychologique, parce qu'elle est toute seule. Il y a juste une espèce d'IA avec qui elle interagit, mais une IA très très basique, hein, très sergent militaire, c'est-à-dire que quand elle dit des choses qu'elle n'a pas le droit de dire, il y a une espèce de code, tu vois, de langage à utiliser. Quand elle fait ses rapports, ben la censure, quoi. Donc elle est vraiment un peu comme en prison. Alors on va comprendre pourquoi c'est elle qui est là, pourquoi elle y va. Pourquoi le télescope Ulysse aussi, cette opération a été montée. Tout ça, tu vas le voir avec plein de flashbacks. Et là, autrement, tu vois son quotidien. Elle est seule, elle est tout le temps finalement un peu déconnectée puisque dans des mondes virtuels. Et là, vraiment, l'autrice se fait plaisir parce qu'elle nous fait des dessins à la gouache de l'espace qui sont vraiment très très beaux. C'est le côté qui m'a le plus plu en fait. Il y a un côté, pictural dans ces représentations de l'espace qui est vraiment très chouette, quoi. C'est de la peinture. Enfin, la gouache fait que aussi, et puis le thème. Enfin, vraiment, quand t'es projeté sur d'autres mondes, d'autres planètes, c'est très très beau. Enfin, moi, j'adore. Même là, quand elle est plus ou moins, elle n'a pas encore les projections des planètes, mais juste elle est dans le vide, c'est représenté comme ça. Je trouve que toutes ces petites étoiles sont magnifiques.
Ça a l'air assez contemplatif.
Oui. Il y a plus. Tu peux enchaîner des pages. Je ne sais plus le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Tu tournes les pages.
Patch-turner.
Patch-turner. Tu peux faire du patch-turning.
Tourneur de page.
Patch-turner, vous avez dit.
Ouais, c'est quand c'est un récit efficace, en fait, où tu n'arrives pas à le lâcher. Un peu hypnotique.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est bien aussi, de faire venir des petits.
Oui,
c'est qu'on apprend des trucs. Nouveaux
ils
mots.
Ils savent parler anglais.
Ouais.
On apprend des nouveaux mots.
Ouais, c'est ça.
Je vais noter quelque chose. On va l'oublier.
Parce que donc elle est toute seule, elle est surveillée par cette IA dans l'immensité de l'espace. Elle va très souvent dans les mondes virtuels. Et puis elle est hantée par le souvenir de Béatrice, c'était la chérie qu'elle a quittée sur Terre, quoi. Parce que vraiment, elle veut aller là. Tu comprendras pourquoi. Elle commence à avoir des hallucinations, quoi. Donc par moment, on sait plus très bien. Là aussi, c'est encore une BD où la réalité, la fiction, tout se mélange, etc. Et c'est vraiment l'évolution de l'état psychologique de cette héroïne qui est vraiment l'aspect hyper intéressant. C'est pour les amateurs de science-fiction, à l'Interstellar, à l'Arthur C. Clarke, enfin, quand même assez cérébral. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la fin, mais bon.
Je connais pas l'auteur. Melegari, c'est italien.
Alors c'est une italienne, si j'ai bien compris, effectivement, Gabriele Melegari. Et si j'ai bien compris ce que vous me disiez tout à l'heure, très cher monsieur
Carpetto.
Voilà, je cherchais le nom. Steinkiss. La collection Steinkiss, la collection Aux Confins vient d'être lancée par Steinkiss.
Oui, tout à fait.
C'est l'album qui ouvre.
Oui, c'est l'ouverture. C'est ça. Il va y avoir d'autres sorties dans l'année. Oui, dans l'année, il y a d'autres sorties. C'est toujours, du coup, ça va être toujours en dos toilé, si je ne dis pas de bêtises. Très belle construction. Et ils essayent de faire venir des auteurs complets qui vont faire toujours des one-shots.
Ouais.
Voilà, et plutôt bien construit. C'est vraiment une belle collection. Ils se lancent. Et c'est chouette de soutenir les nouvelles collections comme ça.
Ouais, regarde l'espace là.
Ouais, c'est trop beau.
Ouais, c'est très, 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 beau. Très beau. Après, sincèrement, ça peut être une BD effectivement qui, par son côté hallucinatoire, si on n'aime pas les trucs, la science-fiction un peu tordue du bulbe quand même. Oh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, là, il n'y a pas le côté théologique, retour à l'homme de Cro-Magnon, mais. Si t'aimes pas ça et s'il te faut vraiment quelque chose de très narratif, tu n'aimeras pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, par contre.
Ouais, très contemplatif, ça. Ouais, c'est ça. Beau.
Au-delà de Neptune, Gabriele Melegari. Alors, c'est ce que je cherchais tout à l'heure et j'ai encore oublié. C'est donc le premier épisode, le premier tome de la collection Aux Confins. Aux éditions Stenkis. Voilà, c'est ça. À chaque fois, j'oublie, j'ai plus de mémoire. Je deviens vieux, je crois. Voilà. Qui prend la main ?
C'est Mouei.
C'est Mouei ? Ah oui, le chien.
Je rebondis avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir.
Retour sur Terre.
Voilà, retour sur Terre avec
aussi,
messieurs.
C'est de la science-fiction aussi.
Ouais, quelque part, Demain les chiens. Est-ce que vous connaissez Demain les chiens de Clifford D. Simak ?
Mais oui, ouais, c'est ça.
Années 60.
Dans la collection j'ai lu, je m'en souviens.
Tout à fait. Dans laquelle, effectivement, un auteur de science-fiction américain imagine que les chiens remplacent les hommes. Les chiens, les hommes ont fini par disparaître, carrément. Alors là, les hommes n'ont pas disparu.
En pleine des singes, mais avec des chiens.
Les hommes n'ont pas tout à fait disparu dans la version. Alors c'est vrai que vous avez raison, hein, monsieur Pierre, c'est, on est dans la science-fiction, avec messieurs Gers au dessin
fort.
Et Lott au scénario. Alors, moi je dirais, c'est quand même un peu l'année Gers. Il y a eu Ratiche-Poche, il y a eu Fantomix, maintenant...
Vous avez vos têtes.
J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça.
Le meilleur ami du chien. Alors vous allez me dire que je tourne un peu en rond. Est-ce que c'est de ma faute, moi, si Monsieur Gers réalise à chaque fois des ouvrages de talent ? Alors d'habitude, c'est plus en compagnie de Monsieur Pichelin, avec, par exemple, c'est souvent en compagnie de Monsieur Pichelin, notamment Vermine, Foutoir, Amour, Sexe et Bigorneau, c'est pas tous les jours fête, c'est Opération Disco, vous voyez, genre d'ouvrage.
On est dans les losers seront des perdants, c'est eux.
C'est eux aussi, ouais, c'est eux,
ça,
bien
c'était
sûr.
Drôle, ça,
bien
j'adore.
Sûr, les losers sont des perdants, ça c'est chez Flux Glacial. Bref, on est effectivement dans une version humoristique là, de science-fiction où on explique que les hommes se sont fait supplanter par les chiens. Alors ce qui est rigolo en plus,
la
c'est
couve est extra.
Ouais, et ça permet à Monsieur Gers de dessiner ses chiens avec des petits gants à la Mickey.
Oui.
Parce que quand ils dessinent des animaux, ils ont toujours des petits gants à la cartoon. Et j'adore ce petit point de détail là. Et donc en fait, si les hommes se sont laissés
avez-vous
supplanter,
compté les doigts
Je crois qu'il n'y en a que 4. C'est une bonne question, mais je crois qu'il n'y en a que 4 du coup. Il en fait que 4. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles Walt Disney dessinait ces putains de gants. C'était plus fastoche. Et donc, depuis 2022, avec l'apparition de ChatGPT, eh bien, les hommes sont devenus des vrais loches. Vous voyez, 2022, vas-y, ChatGPT, crée une photo de moi entre les nichons d'Ashley Graham. Voilà, ça commence comme ça. Après, OK, Google, rédige mon rapport, commande une pizza et invite une hologramme, disons 90-60-90. Les hommes deviennent gros, les hommes deviennent gras, les hommes deviennent stupides à tel point que pour finir, eh bien les chiens, alors que les hommes sont devenus esclaves de leur intelligence artificielle, ils n'en ont plus et ce sont les chiens qui prennent le pouvoir. Et il l'est, alors pas toutes les familles, hein, c'est pas obligatoire, mais de temps en temps effectivement, les chiens adoptent des hommes. Alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve exactement je me vois effectivement depuis mon cadeau de l'éducation nationale, un chien, vous savez que et ils offrent plus, qu'ils ont plus de sous, donc maintenant ils vous offrent un chien quand vous partez.
Mais s'ils t'offrent un chien, c'est qu'ils t'ont arnaqué.
Et attendez, si j'avais été agrégé, ça aurait été un chien de race.
Faut pas que Floppy écoute.
C'est clair.
Mais il écoute pas encore la radio. Et alors, c'est très drôle parce que les humains, même crétins, sont restés des humains. C'est-à-dire que les ados sont crétins comme des ados humains, etc.
Il y a beaucoup de crétins, quoi, dans cette
histoire. Et puis les chiens ont gardé certaines manies, celles de pisser partout. Alors, c'est rigolo parce que ça leur permet, en fait, de communiquer. Ah, bah, tiens. Oh, mais ça sent Marcel. Tiens, salut Marcel. Et il pisse. Et puis la femme dit, ah, bah, je vais dire bonjour comme s'il dirait bonjour à sa chérie. C'est très drôle. Et les les hommes, eux, conservent d'une certaine manière leur manie.
Est-ce qu'ils parlent encore ?
Alors, les hommes, tiens, c'est une bonne remarque. Ils parlent entre eux, mais pas avec les chiens. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre des chiens. D'ailleurs, il y a une BD qui est... Alors, c'est en plusieurs, parfois en une planche, parfois en deux planches. Et les chiens, les hommes se comportent comme des chiens. Il y a une BD en une planche où un homme se retrouve enfermé dans l'appartement. Mais je vais tout péter, moi, je vais tout péter. Et la chienne revient. Mais Bobby, ça fait que 5 minutes que je suis parti. Et l'autre, il est en train de tout péter dans l'appart. Et il hurle la mort. Et c'est très, très con. Mais pour y voir clair, pour nous aider à mieux le comprendre, eh bien, de temps en temps, on a une petite rubrique intitulée « Les interrogations des lecteurs », qui va porter sur différents thèmes. Par exemple, l'hygiène des humains. Par exemple, on dit « Bonjour la rédac, j'ai fait l'erreur d'adopter un humain mâle, il ne s'est pas pissé en visant les toilettes. J'hésite à changer pour une femelle, qu'en pensez-vous »
C'est efficace. Très bien, très bien.
Voilà, ou bonjour à tous, mon humain de 70 ans qui est dans notre famille depuis des dizaines d'années refuse de se laver, faut-il l'obliger ? Et donc on se fend, effectivement, vous l'aurez compris, bien la goule avec cette espèce de monde inversé où les chiens ne sont pas, par contre, parfois, toujours les maîtres. Alors, au scénario, donc je vous l'ai dit, c'est pas Monsieur Pichelin, c'est Monsieur L'Hôte. L'Hôte que je ne connaissais
pas. L'Hôte, comment vous écrivez ça ?
Eh ben presque comme un hôte, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de L apostrophe. Le L est attaché à l'H, ce qui donne un L-H-O-T-E sans accent chez Flex, l'autre. Et il a réalisé 3 tomes avec des dessins de Frécon, Les folles aventures de Gibus chez Bayard Jeunesse, c'est tout. Je le connaissais absolument pas.
Ils ont les bonnes têtes, vos chiens. Ils sont rigolos.
Ouais, mais ça, c'est vrai. On le doit au talent, encore une fois, de Monsieur Gers. Et avec des moments de pure folie où on ne sait plus qui est qui dans cet univers. Mi-chien, mi-homme. Voilà, édition Fluglacial, le meilleur ami du chien. L'adopter, c'est le sauver chez Fluglacial.
Interlude musicale ?
Yes.
Interlude musicale. We'll be right back. Death in Vegas, Hands Around My Throat. Ouais, ça, je vais voir si ce clip passe sur le blog. Vous savez qu'il y a un des liens vidéo que j'ai fait de la programmation de la semaine dernière où on vous prévient que vous allez voir quelque chose d'explicite.
Ah oui. Oh, dis donc.
la vidéo d'un des morceaux de la semaine dernière, et c'est un morceau à Roger.
ça m'étonne qu'à moitié.
Moi je dis ça. Oh. Alors je suis curieux de voir s'ils vont regarder celui-là, parce que dans mon souvenir il y a Mathilde Seigné, c'est assez suggestif. Mm. Ouais. On va voir, ça sera rigolo. De toute façon, si vous voulez retrouver la programmation musicale de Plume et Pinceau, il fallait sur le blog et vous retrouvez aussi toutes nos chroniques. Et on a le temps d'ailleurs pour une petite dernière avec des petits lapins.
Tout à fait.
On reste dans les animaux.
Oui, je vous présente Watership Down. Alors, c'est une adaptation d'un roman anglais de Richard Adams, qui est une œuvre culte en Angleterre, qui est même une œuvre étudiée en Angleterre et qui est assez peu connue de notre côté du continent, qui est éditée chez Toussaint Louverture, tout comme la BD, qui vient d'arriver chez nous et c'est fabuleux. On suit un groupe qui comprend que son foyer est sur le point d'être détruit et qu'il va falloir trouver un nouveau foyer et fuir vers un nouveau foyer.
Un groupe de lapins.
Eh bien, c'est ça qui change pas mal la chose, c'est que c'est effectivement un groupe de lapins, mais dans un monde pas du tout fantastique, on est dans un monde très réaliste, et ces petits lapins vont fuir leur foyer pour trouver un nouveau lieu où vivre et tenter de fuir au maximum les humains. C'est touchant, c'est très fort, c'est une ode à l'amitié, une ode au collectif complètement incroyable. C'est un voyage initiatique, je dirais, qui se rapproche un peu du voyage initiatique du Seigneur des Anneaux, sans le côté fantastique. Okay. On va vraiment être plongé dans
une communauté.
Exactement, une communauté qui va tenter de survivre et qui a ses propres règles, qui sont des règles de lapin. Sont des lapins de Garenne qui parlent comme des lapins de Garenne. Il y a tout un glossaire qui est fourni avec.
Alors, sur feuille volante, attention.
Sur feuille volante, avec une petite carte sur la feuille volante.
Et on arrive à l'avoir partout, dans toutes les librairies, normalement, c'est vendu avec.
Oui, le glossaire est toujours vendu avec, le petit supplément est toujours dans la BD.
On ne m'aura pas.
Non, parce qu'il paraît que...
Alors, je tiens d'ailleurs à faire passer un message. Une personne qui est venue à notre librairie n'a pas eu son glossaire. Le glossaire l'attend bien patiemment à la librairie depuis.
C'est pour ça que nous en avons parlé.
c'est pour cette personne-là spécifiquement. Non, c'est un glossaire qui permet de comprendre le langage des lapins. Alors, dans le roman, il n'y a pas besoin de ce glossaire parce que le langage est plutôt expliqué et explicite. Là, c'est un peu plus dur à comprendre, donc ils ont mis des traductions de ce que disent les lapins. C'est fabuleux, c'est soufflant. Ça se montre, encore une fois, très critique envers la société humaine, mais de manière hyper intelligente. Ces lapins, dans leur façon d'être amis, dans leur communauté, dans leur façon de s'entendre, c'est touchant et ça donne qu'une envie, c'est d'être un petit lapin de Garenne.
Oui,
c'est beau.
Enfin, oui et non, parce que j'ai l'impression entre les chasseurs, les chiens, les chats...
Oui. Ils ont effectivement beaucoup de problèmes avec ce qui entoure la société des lapins, mais ils se montrent assez malins. Alors, il y a une toute petite pointe de fantastique qui va apparaître dedans, c'est que un de ces lapins, le frère du héros, a des visions qui lui permettent de sentir que les choses, quand elles vont mal tourner, lui il le sent venir. Voilà.
C'est un prophète du malheur.
C'est un prophète du malheur et son frère est le seul à l'écouter et son frère est le héros de cette histoire qui va se montrer le chef de ce groupe, et qui vont petit à petit aller vers ce nouveau lieu de vie.
C'est un très bel objet en plus.
Oui, Toussaint Louverture, c'est leur grande force, c'est que tout ce qu'ils éditent en BD est très très bien édité, c'est toujours des très beaux objets. Ils font très très attention à leur façon de tirer, à leur façon de faire des couvertures, et ce qui fait qu'on
des
a entre les mains
des
jolies dorures, des jolis objets.
Alors justement, quand je vous demandais qu'est-ce qu'ils avaient dans leur catalogue, vous m'avez dit qu'ils se sont fait connaître notamment avec...
Moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est ce qui est le plus connu en BD chez eux.
C'est un coup de maître parce que là pour le coup ça a bien marché.
En fait il est très fort cet éditeur pour une chose, c'est qu'il va piocher aux États-Unis et en Angleterre dans des récits qui sont cultes là-bas mais complètement inconnus en France et il nous les ramène dans des éditions qui sont toujours magnifiques. C'est toujours très beau et c'est très bien édité.
Ça même fait très anglais ce genre d'histoire. avec des lapins,
ah ouais, mais
contre rural, contre folklorique, enfin, il y a quelque chose de...
Est-ce que c'est aussi le moyen pour eux de dire du mal des Français? Parce qu'ils ne mangent pas
Est-ce qu'il y a des grenouilles? Est-ce qu'il y a des grenouilles?
Ils ne mangent pas les lapins, les Anglais, normalement.
Non, ils ne les mangent pas, les lapins, mais ils ne disent pas du mal des Français, mais ils se montrent très malins dans... Ces lapins vont comprendre que l'entraide entre animaux pour se battre contre les humains et surtout contre les autres prédateurs se trouve être utile. Mmh. Et donc, on va être les premiers lapins à s'entraider entre animaux.
Donc, ça s'appelle Watership Down.
Watership Down, adaptation du roman qui s'appelle lui aussi Watership Down.
Il nous reste 5 minutes. Vous voulez chroniquer quelque chose?
Non, allez-y, mon bon.
Okay. Bon. Je voudrais pas le saloper parce que. Alors, je sais que Monsieur Fifrelin, lui, il a pas aimé. Mais moi, j'ai trouvé j'ai plutôt apprécié Le Diable et Coral.
C'est plus compliqué que ça, mais on pourra en reparler.
D'accord. Eh ben,
on va en parler. Le Diable et Coral. Ouais. Et comment vous écrivez? Ah, Le Diable et Coral.
Ouais, c'est ça.
Et puis.
Et puis.
D'accord.
Et puisque. Le Diable et Coral. Ouais, c'est les deux personnages qu'on voit sur la couverture. Coral, c'est la jeune fille, là, qui est dans les tons verts. Et le personnage qui s'est fait très japonais. On dirait un tengu, un peu une créature comme ça. Le Diable. Voilà. C'est, de toute façon, tu regardes, c'est écrit quasiment au-dessus. Le poteau faisant la séparation. La couverture est très intelligente. En fait, c'est la relation de ces deux personnages qui, alors on va comprendre comment, se retrouvent associés. Elle, c'est une jeune fille d'origine juive qui vit à Prague et qui est en rupture avec son papa, qui est rabbin. Rabbin là-haut, il descend d'un célèbre rabbin, le rabbin là-haut qui avait animé le golem.
Ah bah ouais, quand même.
Voilà. Et c'est vrai que ce rabbin, on l'appelle pour faire des exorcismes, des choses comme ça. Il combat le diable, il a des pouvoirs, il est sorcier quoi, mais un sorcier rabbin, d'accord ? Bonne magie. Et il combat le diable. Et sa jeune fille, sa fille a des talents de voleuse et puis ils sont fâchés. On comprendra pourquoi. Donc elle a quitté son papa et elle a rejoint une troupe de cirque, de saltimbanques. Voilà. Et
on dit des circassiens maintenant.
Des circassiens. Des circadiers. Et en fait... on la voit dès le début, elle est toujours accompagnée du diable. Il n'y a que elle qui le voit. Et ils échangent, voilà. Tu sens qu'ils sont un peu ensemble contraints et forcés. Donc tu vas découvrir pourquoi ils sont contraints et forcés. Et en fait, toute l'histoire va tourner au fait qu'on est en 1939. Prague est récupérée par l'abandon de Munich, par les troupes nazies. Arrivée d'Hitler, etc., etc., haine des juifs, elle est juive, son papa est rabbin, etc., et la communauté locale sait que le golem a été une figure protectrice contre l'antisémitisme. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire revenir le golem.
Ça serait pas une mauvaise idée.
Voilà, ouais. Ça serait pas une mauvaise idée. Tu vois, ça va s'imbriquer pour te faire plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt une chouette histoire. J'aime bien le dessin de Monsieur Holmes, je le trouve très beau. En fait, j'aimais bien la couverture. Au départ, j'ai vraiment pioché au hasard et je trouve que vraiment, c'est très chouette ce qu'il fait. Et j'ai bien aimé finalement l'univers qu'on nous propose et ce côté magie rabbinique pays de l'Est.
C'est un one shot.
C'est un one shot, ouais, que je trouve plutôt ma foi fort réussi. Donc c'est paru chez Dargaud. Ça s'appelle Le Diable et Coral. C'est Monsieur Holmes. C'est un Espagnol, je crois. Je me souviens plus de l'album qu'il a fait.
Comment vous écrivez ça, vous?
H O M S.
Il est connu pour la série She.
C'est ça.
Une série adulte et pas, non pas la série de Chi pour enfants.
Et alors, et comment Monsieur Fifrelin
Il n'avait pas l'air emballé.
Il n'était pas emballé, vous savez pourquoi?
Oui, en fait, on l'a tous lu à Tibulle comme une œuvre très adulte et on s'est retrouvé face à une œuvre qui est, je pense, plutôt ado-adulte dans ce qu'elle apporte. Et du coup, en fait, on n'a pas les attentes qu'il faut quand on lit ce genre de choses. Il faut savoir qu'on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on lit plutôt vite. Et quand on est décontenancé comme ça dans une lecture, on peut se retrouver très déçu parce qu'on n'attend pas ça. Et du coup, on est mis de côté. Voilà, dans la lecture. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour cette œuvre-là, qu'elle est adaptée à un public ado, qu'elle est adaptée à un public adulte aussi. Mais qu'on attendait quelque chose de plus sombre, plus noir peut-être dans ce que ça raconte.
Oui, parce qu'il y a même des côtés un peu, je vais pas dire comiques, mais il y a des allusions. Par exemple, il y a la fameuse scène de l'exorcisme, la coupe de l'exorcisme. C'est très référencé. Et ça, c'est effectivement peut-être ça dédramatise.
Et je pense que ça peut être très bien pour des gens qui ont peu lu de fantastique de ce genre-là, mais dès qu'on en a un petit peu lu...
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très théâtral, en fait, dans les échanges et dans les joutes verbales.
Il y a un côté circassien, peut-être.
Ouais, peut-être circassien. Et je dois avouer que moi, ça m'a bien plu. J'ai regardé ça comme presque une pièce de théâtre folklorique tchèque. en fait. Moi, j'étais vraiment là-dedans. Et j'ai bien aimé. Mais oui, si on s'attend à un truc horrifique,
tout à fait.
On va être déçu.
Ouais.
Ouais, ouais, parce que y a voilà, on va voir un peu l'enfer, mais même l'enfer, il y a plein de petites créatures à la boche, etc. Donc ça fait pas peur, en fait.
Ça fait même moins peur qu'Hitler en Pologne.
Exactement.
Mais je pense que c'est ce que ça veut raconter, c'est qu'Hitler en Pologne était peut-être pire que l'enfer.
Enfin, moi, j'ai bien aimé. Écoutez. Achetez. Lisez. Et vous ferez votre avis.
C'est-à-dire, si vous avez genre 17, 18 ans, ça que vous vouliez dire, Pierre.
Tu simplifies quand même la remarque.
Non, mais là, le bâton était tendu. Je suis foncièrement mauvais. Ça aurait été gâché. Vous savez quoi? Ça aurait été gâché. On aurait pu croire que je vous faisais la gueule.
Belle reprise de volée.
Bah oui.
Bon, un dernier interlude musical. Tiens, je mets The Venture, Whip Out.
Ah, super.
C'est le côté surfeur de Roger. C'est son côté surfeur. Ride, ride.
Parfaitement, je te ferais dire.
Voilà. Nous allons donc conclure cette 505e émission de Plume et Pinceau. Normalement, la semaine prochaine, on en fera encore une. Voilà. Après, il y aura peut-être la petite rupture conventionnelle des vacances.
Ouais, il faut bien qu'on aille.
J'ai un ami qui a la retraite, il faut bien qu'il se repose.
Il faut bien qu'on aille sur la côte, il y a plus de monde pour aller faire la manche.
Dans le Berry mystérieux.
Ouais, où il y a le Berry. Le Berry, il fait chaud dans le Berry en ce moment, puis il y a des orages de ouf.
Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, que vous retrouverez toute la programmation, alors, des lectures, ainsi que musicales. Sur le blog de Plume et Pinceau.
Et qu'il semblerait que la fin du monde soit repoussée d'une semaine, puisque les Iraniens ne peuvent plus fabriquer leurs bombes tout de suite.
Tout peut évoluer. En attendant, en tout cas, vous pouvez aussi, contacter la brasserie FEN, bière rennaise, monsieur Jérémy Josselin. Ok, je vous mettrai son mail. Je vous mettrai son mail. Et comme ça, vous pourrez acheter des bières Foxboy.
Ah ben là, ça va se voir. Non, là, j'ai vu Pierre, il était navré. Il regarde ses pompes. Pierre, je crois qu'on le verra plus ici.
C'était quoi le petit supplément, là, cette fois?
Mais vous, c'est ça, votre problème. Vous voyez tout en bien, mal.
Non, mais bon, je vois s'il parle de bière.
De grenadine.
Non, sinon, moi, j'ai un frangin, il fait dans le poulet. Il est sur Jancé. Si ça vous dit, le poulet pic-pic du frangin de Roger. Très très bien, on va mettre le lien sur,
On va faire ça. Bon, à la semaine prochaine, du coup.
Bonne lecture. À la semaine prochaine.
Tant qu'on a le droit.